Ce jour était dédié à l'époque pour la libération des otages. Bon, j'espère juste qu'il y a encore un dernier corps qui doit arriver. Une bonne santé, plus que possible, Bertrachem, pour tout un Israël. Ok, cette semaine, Shabbat, on finit le livre de Bereshit avec Parashat Vayechi. Et Yaakov vécu. C'est en fait les 17 ans. Lorsqu'il est arrivé en Égypte, il avait 130 ans, il est mort à l'âge de 147 ans. C'était, le Zohar dit que c'était la plus belle époque de sa vie. Ça correspond à la Géoula. Le livre de Bereshit, il correspond à toute l'histoire juive. Les trois dernières parashiot, on parlait des deux royautés, Machar ben Yosef, l'histoire de Yosef, et Machar ben David, l'histoire de Yehuda. Et ils se rendent compte, et ils ne sont pas d'accord, et pour finir, ils s'unissent, et ce sera la Géoula. Le dernier livre, il parle de l'époque de la Géoula elle-même, où il y aura tout ce qui est bien pour le peuple d'Israël, Bezrat Hashem. Et à un moment dans la paracha, Yaakov va mourir et il bénit ses enfants. Terrible. Parce qu'il appelle Rouven, il lui dit, alors je vous lis dedans, Rouven Bechoriata, tu es mon fils aîné, Kochi Vereshit Oni, tu es ma force, et Rach explique, c'est la première goutte de semence qui est sortie de mon corps. Il n'a jamais eu de semence en vin. Yaakov Avinu. Il s'est marié à l'âge de 84, je crois, quelque chose comme ça, 83, 84, d'accord. La première goutte, c'est son fils Rouven. Yeter set ve yeter az. Tu aurais dû avoir deux choses en plus. La kehuna, vu que tu es l'aîné, tu aurais dû être Kohen. Faire Birkat Kohanim, travailler au temple, etc. Vieteraz, tu aurais dû être roi d'Israël, la royauté. Or, ces deux choses, tu as perdu. La Kehuna est partie chez les Lévim, chez les Kohanim, les enfants de Aaron, Aaron et ses enfants, et la royauté, chez, d'abord chez Yosef avec son descendant Shaoul, et après, c'est dans la maison de Yehuda, toute la Malchut Yehuda, c'est eux les seuls qui peuvent être les rois d'Israël. Tu as perdu ça. Pahaz Kamaim Altotar. Apeuré comme de l'eau ne reste pas. Ça veut dire que Rouven a fait un péché. Lorsque Rachel est décédée, alors Yaakov a pris son lit et l'a mis dans la tente de Bilha. De Bilha. Bilha, c'est la servante de Rachel. Et Rouven, qui était le fils aîné de Léa, il n'a pas supporté. Il dit quoi? Si déjà Rachel, qui est la deuxième femme, parce qu'elle s'est mariée en numéro 2, déjà elle passe avant Léa, hein, la servante de Rachel va passer avant Léa, il a pris le lit de Jacob, l'a mis dans la tente de Léa de sa mère. Jacob lui dit, Pachaz, apeuré, rapide, tu réagis vite, comme l'eau ne reste pas. Bon, c'est pas une bénédiction, c'est une malédiction, ça. Après, il y a Shimon et Lévi qui rentrent. Il leur dit, vous êtes des frères, Kler Hamas Mecherotehem. C'est du vol, vos armes. C'est quoi les armes? Il dit après, Kibapam Hargu Ish, dans leur colère, ils ont tué un homme, c'est qui? C'est Shrem Ben Hamor, et toute la ville de Shrem. Au Bessonam, Ikrou Ish, et dans leur volonté, ils ont Ikrou, ils ont déraciné un bœuf. Le bœuf, c'est Yosef. Yosef, dans sa bénédiction, c'est Bechor Hadarlo. Il est comparé à un bœuf. Il maudit leur colère. Arurapam, maudit est votre colère. Et après, Yehuda, il a voulu partir, il s'enfuit. Il a dit, qu'est-ce que je vais me faire encore maudire? Alors il dit, non, viens, viens. Et là, il commence à les bénir. La chose intéressante qu'il y a à voir là-dedans, c'est que il les maudit pas à cause du péché qu'ils ont fait. C'est pas écrit, Rouven, tu as changé les... C'est marqué après, Kialita, Mishkeve, Avicha, tu as changé les lits, etc. Il lui dit, apeuré comme l'eau ne reste pas. Tu as agi avec passion. Tu as vu ce qui s'est passé, tu aurais dû un peu te calmer, voir qui, quoi, comment. Peut-être même que si tu l'aurais fait calmement, ça n'aurait pas été aussi grave. Mais tu étais apeuré, tu étais embêté, tu supportes, tu as fait ça avec passion, sans calme. Et c'est ça que Yaakov va critiquer. De même avec Shimon et Lévi, il critique quoi? Il dit « Arur apam » qui va pas marguish, dans leur colère, ils ont tué des personnes. « Arur apam » que soit maudite leur colère. Il ne va pas critiquer le péché, il va expliquer la mida, la qualité d'âme, ou le défaut de l'âme qui a amené à cela. Et pour nous, c'est un très grand enseignement. Je vous ai amené ici un livre, Shaarei Kedusha, j'ai amené ici de notre bibliothèque. C'est un livre écrit par Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, c'est l'auteur de toute la Kabbalah. Son maître était Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, qui lui a enseigné pendant 22 mois, Rabbi Chaim Vital, et après il est mort. Le Hari. Et après, pendant 50 ans, Rabbi Chaim Vital a écrit ce qu'il a appris pendant les 22 mois du Hari. Toute la Kabbalah qu'étudient les Kabbalistes, c'est rien que ça. On n'a pas le droit d'étudier autre chose. Ça, c'est la vraie Kabbalah juste et bonne que tous les Kabbalistes étudient.
La Kabbalah
du Ramchal, le Zohar, par exemple. Hein?
Le Zohar,
c'est un peu comme la Mishnah. Et la Rabbi Noiri, c'est comme la Gemara. Le Zohar, il donne les racines. Mais ce n'est pas du tout expliqué. Rabbi Noiri est venu, il a développé tout cela. Comme la Mishnah et la Gemara. La Mishnah, c'est un petit texte de 3 lignes, après tu as 10 pages de Gemara. D'accord? Après 200 ans, le Rachash est venu, le Ramchal aussi. Le Rachash a expliqué la Kabbalah de Rabbi Noiri. Ramchal, c'est un peu différent. Mais l'essentiel, c'est Rabbi Noiri. Maintenant, Rabbi Chaim Vital, il a écrit presque de la Kabbalah. Il a écrit un livre qui s'appelle « Etz Hadat Tov », c'est un commentaire sur les Tehillim d'après le sens simple. Et ça, c'est un livre de Moussar, qui s'appelle « Shaarei Kedusha », les portails de la sainteté. Passionnant. Le plus grand des kabbalistes qui te dit maintenant un livre de Moussar. Alors, on ne va pas maintenant l'étudier en entier, parce qu'on n'a pas le temps. Mais je vous lis un petit passage qui a à voir avec ce que je viens de dire, au début du chapitre 2. והנה עניין המידות הן מוטבעות באדם בנפש השפלה הנקראת יסודית. Voici les midot, c'est donc les qualités et défauts de l'âme, sont entérinés dans l'homme, dans son âme basse, qu'on appelle yesodit, de base, qui contient quatre parties. Domem, c'est minéral. Tomahat, c'est végétal, Behemit, c'est animal, Mdaberet qui parle. C'est en fait notre corps, d'accord? Notre corps, il a des parties qui ne bougent pas, des parties des os par exemple, c'est comme le minéral, etc. Et elles sont combinées de bien et de mal. Et de ce nefesh, de cette âme, dépend les bonnes midot et mauvaises midot. Elles sont un siège et une base et la racine de l'âme supérieure dont dépendent les 613 mitzvot. Je vais expliquer comment ça se passe. On a une âme supérieure qui est complètement spirituelle et c'est par elle qu'on a l'envie et qu'on fait les 613 mitzvot qui vont nourrir cette âme-là. Cette âme-là s'appelle le fruit. Ça, il explique ça dans le premier chapitre. Le fruit, il est dans une écorce. L'écorce, c'est les forces du mal, c'est aussi une âme, qui vont entourer l'âme sainte.
C'est du haut à Vérot ou
de... Non, c'est comme ça qu'on est. On a du mal en nous. Dieu nous a créés avec du bien et du mal. Et cette âme mauvaise, elle est entérinée encore dans les... C'est ce dont il parle ici, l'âme basique, qui en fait, elle est faite de quatre... parties. Ces quatre parties sont les quatre hésodotes, les quatre bases de ce monde. Le vent, le rouar, vent on peut dire, l'air, d'accord, le feu, l'eau et la terre. On va continuer dans ce que le Rav parle. va expliquer que les mitzvot, en fait, dépendent, tout dépend de cette âme qui est en bas. Parce que c'est la racine de tout. Maintenant, ces quatre yesodot, on peut les avoir en bien comme en mal, ces quatre bases. Le vent, l'air, c'est la parlotte. Les gens qui adorent parler. Le feu, c'est la colère. La terre, c'est la force d'inertie, c'est la paresse. Vous voyez le matin que vous êtes dur de vous lever du lit, c'est cette partie-là. Et l'eau, c'est l'envie. Maintenant, si on suit ces parties-là, alors l'âme aussi en haut, elle ne peut pas faire la mitzvot. La partie en bas, elle ne fait pas la mitzvot. Mais elle est la source de l'âme qui est en haut. Et l'âme qui est en haut ne peut faire des mitzvot que si elle va réparer les mauvaises qualités de son âme d'en bas. C'est pour ça que Yaakov, et nous tous, le Rav ici, il va nous expliquer qu'on doit travailler les midot. Il conclut, c'est pour cela que les mauvaises midot, c'est plus dur que les péchés, eux-mêmes, beaucoup, beaucoup. Le péché, c'est un résultat, c'est ok, t'as une mauvaise mida, pas que ça fait un péché. Mais le problème, c'est pas le péché, le péché c'est une conséquence. Le problème, c'est la mauvaise mida. Tu suis maintenant une partie de ton corps bas, qui n'est pas réparé et qui te pousse à faire des péchés. Et dit que c'est beaucoup plus dur que les péchés. Un péché, tu peux arriver à réparer, mais c'est la mida qu'il faut changer. Sauf que Yaakov Avinu ne va pas critiquer, il ne va pas leur dire « t'as fait le péché, t'as changé le lit, t'as tué ». Ça, il le dit en passant, mais il va critiquer la colère. Le fait que tu sois apeuré, t'as changé les lits, la colère de Shimon et Lévi.
Sur les midotes, ça empêche de faire des avérotes.
Exactement. La avéra, on fait la avéra parce qu'on t'est poussé par une mauvaise mida.
Toute la avéra ?
Toute la avéra. Parle-moi d'une avéra.
Je mets des naïms.
Martin Naïm, c'est l'eau, c'est l'envie. T'as une pulsion d'envie mauvaise de regarder une femme. Le vol, la colère, bien sûr, tout ce que nous avons comme mauvaise mida, c'est toujours un des quatre, une des quatre bases qui t'amène certains péchés. D'où l'importance de travailler les midot. On appelle ça le moussard. Il faut comprendre. Si quelqu'un ne travaille pas les midot, il devient quelqu'un de mauvais. Et toute sa vie, il va souffrir. Parce que les gens autour, bien qu'eux aussi peuvent être mauvais, mais ils n'aiment pas les gens mauvais. Quelqu'un a des mauvaises midotes, il a des réactions toujours négatives. Il a l'envie, il a l'égoïsme, il a la colère, il a la paresse. D'accord, on ne peut rien faire avec ça. D'où le problème des couples aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont des mauvaises midotes, ils se marient. Et au mariage, ça ne tient pas. C'est impossible. Un mariage ne peut tenir que si... Ou bien un des deux s'écrase complètement et supporte la personne mauvaise qui est en face de lui, et c'est un pauvre misken. Ou bien on va faire un travail, on va changer de mauvaise midote en bonne midote. Mais ce n'est pas le jour du mariage qu'il faut commencer à faire ça. Il faut commencer maintenant, chers amis. La yeshiva, c'est la meilleure école pour cela. Parce que tu vis en communauté, et tu peux faire tout ce que tu veux quand tu veux. Et il y a un programme qui est relativement fixe, d'accord, tu dois le suivre, ça va te faire travailler les midot, c'est clair. Et c'est ce que Dieu aime. Parce que quand tu vas travailler tes midot, ben tu deviens un tzaddik. Sans parler des mitzvot et des péchés que tu fais pas, des mitzvot que tu fais. Ça, on avait dit, c'est qu'un résultat. Quelqu'un qui a des bonnes midot, il est aimé par Hachem, parce que c'est exactement ce que Hachem veut. Il veut qu'on parle pas trop. Parler, il faut parler. Mais parle de Torah, parle de mitzvot, parle de faire du bien à ton prochain, de chesed. Tu parles trop, forcément, tu vas faire des péchés. La shonara, les critiques, tu vas t'enorgueillir de toi-même. J'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, et critiquer les autres. ça parlait de femmes, ça parlait de toutes choses qui sont interdites. Si tu ne travailles pas maintenant la mida du afar de la terre, tu es paresseux pour lever le matin, tu arrives à rentrer à la prière, tu es paresseux pour tout, paresseux pour étudier, paresseux. C'est terrible la paresse. J'ai fait un cours une fois que j'ai appelé l'ennemi public numéro 1. Parce que nous tous sommes touchés par la paresse. C'est terrible. Chaque fois qu'on veut faire une mitzvah, automatiquement vient la paresse et nous dit non. C'est fatigant, il faut se bouger, on n'a pas envie. Et même si on se bouge, on se bouge à moitié. Parce que la paresse, elle nous lie. Elle nous ligote. Alors, comme toutes les midot, il faut commencer à étudier du moussard, il faut penser à ça. Et quand on voit maintenant qu'on subit une mauvaise midot, se battre. Et on se bat une fois, la paresse revient. Mais si tu te bats 1000 fois, elle part.
Le meilleur moyen, c'est de travailler la midot elle-même ou alors de travailler la midot opposée. Par exemple, si t'es paresseux, tu travailles le ratson.
Les deux. Les deux. C'est-à-dire que si tu vas travailler que la paresse, tu n'auras pas encore la zrizout, comme appelle ça le Messel Charim, la rapidité. Tu vas aller étudier, mais pas rapide, tu vas à normal. Mais il y a aussi un travail aussi de faire les choses avec envie, rapidité, amour de la mitzvah. Ça, ce n'est pas la paresse, c'est une autre partie. C'est le positif. Qu'est-ce qui restait encore? L'eau, l'envie. On est tous touchés par ça. Un des grands tikkunim pour les balais de tshuva, il faut comprendre qu'il y a des péchés pour lesquels il faut jeûner normalement. Une série de jeûnes, tous les jours, pas la nuit. Par exemple, quelqu'un qui a fait zera la batala, semence en vin, il faut jeûner 84 jours de suite. Alors ça commence bientôt, les Shovavim, c'est la période la meilleure pour faire ça. Bon, c'est pas facile. Combien de fois? Il y a trois avis. Un, Chacham Daftaya, c'est l'élève du Ben Yishraï, un grand kabbaliste, qui dit « Chaque fois que tu as fait, il faut 84 jeûnes. » Un Français moyen, il va jeûner toute sa vie. Ben Yishraï, il dit « Non, l'Admor de Lubavitch, le Balatania, lui il dit trois fois. Trois fois que tu fais la série, ça répare tous tes péchés. De Zeral Batala. Ben Yishraï dit une fois, ça suffit. Tu fais une fois, ça répare tous tes péchés. Et Ben Yishraï, Baruch Hashem, il a compris qu'on n'était pas des gens très fortiches. Alors il dit, tu peux jeûner trois jours, lundi, jeudi, lundi, ou jeudi, lundi, jeudi, ou que Yom Kippour, ou même moins depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, et tu donnes en tzedaka, hein, l'argent qu'il t'aurait fallu pour manger deux repas, 84 fois. Deux repas, tu as le petit déjeuner et le déjeuner, 84 jeûnes, 84 fois. Donc on va dire, tu manges pour 5 euros par jour, fais 4 fois 84, combien ça fait? 840 divisé par 2, 420, 420 euros. Tu payes 420 euros, et c'est valable comme si tu as fait les 84 jeûnes. Très sympa. Quelqu'un qui a fait, il a une relation avec Famnida, 82 jeûnes. Quelqu'un qui s'est mis en colère, 151 jeûnes. Quelqu'un qui couche avec une Goya, Chas Shalom, 216 jeunes, avec une femme mariée, 235, si je me souviens bien. Bon, il y a une collection de jeunes à faire. C'est pas Gemara, c'est la Kabbalah. C'est Rabbi Noari. Ouais. Maintenant, les grands d'Israël ont donné des trucs à la place des jeunes, qui peuvent être mieux, qui valent des milliers de jeunes. Je parle de l'envie maintenant. Tu manges un bon plat, t'arrêtes au milieu. T'as super envie de continuer. T'arrêtes. Tu verras que pendant 24 heures, tu vas penser à la suite du plat. D'accord, ça te... C'est un tikkun. C'est un tikkun de l'envie. C'est un très grand tikkun. Le plus grand tikkun de tout, il semblerait, c'est l'humilité. Quand tu es humble, les gens t'embêtent dans la vie. Tu peux réagir, tu t'écrases. Ça, Hachem, il adore. Vous voyez que Moshe Rabbeinu, c'était quand même quelqu'un de bien, Moshe Rabbeinu. Il avait plusieurs qualités. Il y a une seule qualité que la Torah vante chez Moshe, qu'il était humble. Dit qu'il étudiait la Torah, dit qu'il était sympathique, dit que... Pff, on n'en parle pas du tout de ça. L'humilité. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rav Huna, comme ça dit la Gemara, il était mourant. Et un autre rabbin, j'ai oublié son nom, est venu, il a dit, préparez-lui le linceul, les habits du mort. Pour finir, il s'est levé du lit et il a revécu bien. Le type qui avait dit, préparez-lui le linceul, le rave, il avait honte de le rencontrer, du genre, j'allais dire que tu allais mourir. Un jour, ils se sont rencontrés, Rav Huna lui a dit, t'as bien fait, je vais mourir. Mais quand je suis arrivé là-haut, Dieu lui a dit, non, il est humble. Quand on parle mal sur lui, on le fait du mal, il s'écrase. Donnez-lui encore de la vie. C'est la chose la plus grande qu'il puisse y avoir, c'est la source de tout.
Il faut s'écraser dans tout, surtout, partout, tout le temps.
Exactement. Alors j'ai expliqué. Quelqu'un maintenant, on va dire, le cadre où il faut plus apprendre à s'écraser, et on a déjà souvent parlé, c'est le couple. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un dans ta chambre, il t'a mis du poil à gratter dans ton lit, bon, bah, tu lui dis, écoute, arrête, continue, tu changes de chambre, voilà. Tu ne vas pas lui casser la gueule, oh. D'accord, tu changes de chambre. Mais ta femme, elle est casse-pied. Elle manque de cavole, elle t'a fait mal, elle t'a... qu'est-ce que j'en sais? D'accord, les êtres humains ne sont pas parfaits, forcément, on se touche l'un l'autre. Et quand c'est mon conjoint, ça me touche beaucoup plus, parce que je suis vulnérable, je me suis ouvert. Donc il faut s'écraser. Mais, dans ce cas, elle avait tort. Alors si je m'écrase, je donne raison à celui qui a tort. Alors déjà expliqué ici qu'on attend que la tempête passe. Elle s'est calmée, je me suis calmé, j'ai même plus envie d'en parler de cette histoire-là. Là, il faut aller en parler. Mais sympathique, avec un sourire. Tu sais ma chérie, l'autre jour t'as fait comme si, c'est dommage, comme ça, tatati, ça me touche, machin. Expliquer gentiment. On peut dire qu'on a raison, mais c'est avec la tête, pas avec l'ego qui a été touché. L'ego qui a été touché, ça c'est un animal sauvage. Et quand il parle, l'animal sauvage qui a chez la femme, il se réveille aussi. Et des fois pire. J'ai dit la dernière fois, c'est marqué un homme et une femme, Zahou, s'il mérite, et la Shrina, la présence divine qui est entre eux. Comment on apprend ça? Dans le mot Ish, il y a une lettre différente que le mot Isha. Être Yud. Dans Isha, il y a un Hei. Les deux autres lettres qui restent, c'est Aleph et Shin. Ça, c'est la présence divine. Ça fait Yud et puis Hei, ça fait le nom de Dieu. Si ça part, qu'est-ce qui reste? Aleph, Shin, Esh, du feu, le feu de la discorde, la bagarre. La Gemara dit plus chez la femme. Pourquoi? Parce que chez l'homme, Ish, le Yud, il est au milieu, entre Aleph et le Shin. Il n'est pas lié. Chez la femme, Isha, le Aleph et le Shin sont liés. Donc elle a un feu plus... elle a un potentiel de feu beaucoup plus grand. Donc il faut apprendre à s'écraser. Alors tu peux après aller expliquer et dire c'est pas moi qui avais tort, c'est toi qui avais tort, gentiment. Là, il faut le faire pour arranger les choses. Mais pas au moment du feu. Là, il ne faut pas essayer d'éteindre le feu parce qu'il deviendra encore plus fort. Parlons du feu, la colère. La colère, on voit ici que Yaakov Avinu, il maudit ses deux fils, Shimon et Lévi, c'est quand même des... Il faut comprendre de quoi on parle. Le Shlach Kadosh, il dit que c'était pas... Ils étaient plus hauts que les anges. Les 12 tribus, les 12 fils de Yaakov correspondaient aux 12 permutations du nom de Dieu qu'on peut faire. C'est phénoménal. Et la colère qu'ils ont eue, c'était un petit... de rien du tout. Ils ont bien fait d'aller tuer tous les gens de Shrem. Peut-être qu'il avait raison, Rouven, de changer les lits, mais ça a été fait avec une mauvaise mida, pas dans le calme. Et ça, Yaakov, il est en train de mourir, il le reproche. T'as une mauvaise mida, il faut la changer. La colère, c'est terrible. Quelqu'un qui est en colère, il est comparé, quand il a une colère grande, où il casse des ustensiles, il est comparé à quelqu'un qui pratique la avodaza. Chacun va vérifier chez lui combien il se met en colère. Quelqu'un qui ne se met pas en colère, il a gagné énormément. Parce que quand on est en colère, on fait des actes qui sont anormaux. C'est plus nous-mêmes. C'est marqué que notre âme sainte nous quitte. Vient à la place une âme d'impureté. Le citrahra. On se dit, c'est Avodazara. Citrahra, c'est le côté autre. D'accord. Le mal, il rentre en toi. Et il te dit quoi faire. Et tu n'as pas de limite. Tu fais des trucs de fou. Il y en a qui insultent. Il y en a qui tapent. Shemish mort. Toqué. Le type, il a perdu complètement. Il a perdu le. Même Moshe Rabbeinu, il s'est mis en colère 3 fois dans sa vie. Et chaque fois, il s'est planté. Moshe Rabbeinu, la colère, il faut éviter à tout prix. Tu te mets en colère, tu décroches, tu pars. Au moins que tu ne sois pas ici, tu vas faire des bêtises. Tu vas faire des bêtises.
Comment tu as envoyé ce midot?
Il y a une seule façon de travailler les midot. C'est quand tu es confronté, tu te bats. Au début, elle va gagner. Mais au moins, tu te bats. Après, tu vas commencer à manger un peu plus. Et au bout d'un moment, tu restes calme parfait.
Et là, une mida, il faut l'enlever complètement ou il faut trouver un équilibre dans la mida? Il faut l'enlever complètement.
Ça dépend de quelle mida. Ça dépend de quelle mida. Par exemple, quelqu'un qui est avare. Ah, s'il devient trop généreux, il va dilapider toute sa fortune. Il n'y a plus de quoi manger à la maison. C'est trop. À part la nava. Tu peux aller à fond. Et les gens qui ont un rôle de dirigeant, s'ils sont trop humbles, personne ne va les écouter. Alors eux, ils ont droit à un 1/8 de 1/8 d'orgueil. 1/68, 1/64. Je ne sais pas comment on calcule cela. En tout cas, un tout petit peu. Un tout petit peu pour qu'on t'écoute un peu.
Et la colère?
Shumdavar 0-0. Tu peux jouer la colère.
Tu vois, par exemple, t'as des enfants.
Attends, alors, ce que je dis, tu vas jouer la colère. Tu vas venir à tes petits-enfants. Mais dedans, t'es calme. Mais je te déconseille énormément de faire ça. Parce que, comment ça se passe? Quand quelqu'un se met en colère, il se retient. Il se retient, mais il a une pulsion de se mettre en colère. Le truc à faire, c'est commencer à parler à voix basse. À chuchoter. Parce que la colère, ça te fait parler fort, crier. Quand tu vas chuchoter, ça te fait retenir ta colère. Maintenant, toi, tu veux la jouer avec tes enfants comme quoi tu es en colère. Alors, tu cries. Alors, au début, les 2 premiers mots, c'était la comédie. Puis après, dans le 3e mot, déjà, tu vis l'acteur, déjà. Tu es vraiment en colère. Ça, c'est très, très délicat. Très délicat. Mieux vaut attendre. Et après, tu le réprimandes comme il faut bien. Je crois que c'est avec mon fils, j'ai oublié, je crois que oui. Je ne suis pas certain. En tout cas, une fois, un père, il a donné la fessée à son fils. Il a fait une bêtise, il a donné un coup, puis après encore un 2e coup. Alors, le fils lui a dit, le 1er coup, c'était, j'ai compris que c'était, tu l'as fait vraiment avec calme, et c'était, le 2e, c'était déjà avec nerfs. L'enfant, il a senti. Quand tu fais maintenant, il faut donner. Désolé, je dois te donner une correction, je te donne, tac. Après le 2e, c'est déjà pour... tu te défoules un peu. L'enfant, il ressent. C'est très très mauvais. Très souvent, les parents se défoulent sur les enfants. C'est extrêmement mauvais. C'est pas des punching balls, les enfants. Très souvent, les parents se disent, bon, c'est qu'un enfant, on peut lui faire honte, on peut lui faire la chonara sur lui, on peut le frapper. Il est beaucoup plus délicat et sensible qu'une personne adulte. Combien de fois, Shabbat, les enfants font des bêtises? C'est ça le rôle de l'enfant, d'accord? L'enfant, il sait exactement jouer sur la corde sensible qu'il y a chez toi. Exactement sur le point qui te dérange, c'est là qu'il va... c'est comme ça que Dieu fait, c'est pas lui. C'est Dieu qui te fait travailler tes midotes. On est Shabbat, il te rend fou, d'accord? Maintenant, c'est encore, on n'est que... les parents, les enfants. Il y a des invités. Et tu le réprimandes, tu le fais honte en public, devant les invités. Tu dis, ah, c'est qu'un enfant. Ben non, un enfant, il a aussi sa fierté. Tu l'as fait honte en public. Pff, compliqué.
Je crois que Moshe, il s'est énervé 3 fois.
Ouais. C'était quand? Les fois où c'était, C'était une fois dans le sacrifice, dans l'inauguration du sanctuaire, il y avait un sacrifice qui a disparu et il a cru qu'ils ont fait une erreur, les fils de Aaron.
Contre l'Égyptien, après.
Hein?
Contre l'Égyptien.
Non, monsieur, on n'a pas entendu qu'il s'est mis en colère.
Le rocher.
Hein, le rocher.
Quand il a jeté les tables aussi.
Il a jeté les tables, je ne pense pas qu'il s'est mis en colère.
Il s'est pas mis en colère.
Non, non.
Quand même.
Ouais, mais il pensait qu'il a fait bien. Et d'ailleurs, Dieu lui a dit bravo. La dernière phrase de la Torah, c'est Dieu lui a dit bravo. Et encore une troisième fois, qu'est-ce que c'était? Bon, j'ai oublié. Voilà. Donc, de quoi on parlait? Alors, c'est clair que l'endroit où on a le plus le terrain de travail sur les Midot, c'est avec sa femme et les enfants. Les gens les plus proches. Ceux qui se permettent de faire tout ce qu'ils veulent quand ils veulent. Alors toi aussi, d'accord? Tu peux avoir été horrible à la maison, tu t'es énervé, t'as crié, t'as hurlé. Tu sors, tu vois ton voisin. Bonjour monsieur Cohen, comment allez-vous? T'es tout gentil. Si ça aime ce Cohen, comment t'étais il y a 3 minutes? Il aurait été horrifié. Voilà, le vrai terrain, c'est quand on est avec les proches, où on montre la vraie personne qui est en nous. C'est pour ça que, quand on fait un chidour, il faut y aller lentement pour bien vérifier, essayer ce qu'on peut, les midotes du candidat à être ma femme ou mon mari. D'accord? Parce que c'est l'essentiel. Le Razonich, il a dit, ce qu'il faut voir, une femme comme chez un garçon, qu'il est responsable sérieux et qu'il est gentil. Et une femme, qu'elle soit gentille. La base de tout. Parce que c'est une sadéquette, elle prie 3 heures par jour, tout ça, mais elle n'est pas gentille. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu veux pas une prieuse, tu veux une femme gentille. C'est la base de tout. Donc, bien, bien vérifier les minotes et nous-mêmes bien travailler nos minotes pour être des maris gentil, Baruch Adonai, l'Olam, Amen, va Amen.